Alternativa 2017. L'équipe d'Ondes Courtes est allée capter les conférences lors de l'édition Alternativa 2017. Samedi 15 juillet 2017, lors de l'édition de Alternativa à Ginals dans le 82, avait lieu une conférence animée par Pierre Lécolo sur l'autonomie récupération des eaux de pluie.
Donc, merci déjà à tous d'être présents, c'est déjà un plaisir. Je vais vous développer là un sujet qui est franchement plus complexe qu'on ne peut l'imaginer en général. C'est un sujet qui a déjà fait couler pas mal d'encre, mais... on a des idées comme ça de ce que peut représenter l'eau de pluie sur le type de projet ou quoi que ce soit, mais quand on prend le problème dans son ensemble, c'est quand même bien plus complexe qu'on ne peut le penser. Donc je vais commencer par un aspect qui n'est pas des plus sympas, je vais dire, qui n'est pas des plus agréables, c'est la partie approche réglementaire. Mais pour moi c'est un incontournable parce que le problème de l'eau de pluie aussi en France, c'est que c'est un sujet qui est très décrié, qui est très dénigré au niveau des pouvoirs publics. Et depuis que la nouvelle réglementation sur l'eau de pluie est sortie en 2008 en France, on a cessé de faire croire, en tout cas au niveau des instances publiques, on a cessé de faire croire aux Français qu'il serait interdit de se doucher sur un plan domestique, de se doucher sous l'eau de pluie et encore pire de la boire, ce qui est tout à fait faux. Et je suis le seul ou un des seuls en France à démontrer le contraire et expliquer pourquoi c'est faux. Parce que jamais personne n'a expliqué cette partie réglementaire. Et c'est ce que j'ai déjà dit au ministère. C'est bien beau de publier des textes et d'en faire une présentation succincte. Mais expliquer, ce serait beaucoup mieux, que ce soit aux collectivités ou aux professionnels ou aux usagers particuliers. Mais jamais rien n'a été expliqué. Dans les grands médias, tous les médias, en fait, même spécialisés, n'ont fait que du copier-coller, en fait, des présentations succinctes de ce qu'ont communiqué, en fait, les ministères. Le ministère de la Santé et de l'Écologie, c'est eux qui ont écrit la réglementation. Et heureusement, j'ai pu réagir assez vite, je vais dire, dès la sortie des textes en 2008. Notamment avec deux magazines que je présente aussi sur mon stand, qui sont les deux plus gros magazines de l'écologie, je vais dire, et des co-constructions en France que vous connaissez certainement, c'est Habitat Naturel et La Maison Écologique. Et depuis cette époque, j'ai collaboré avec eux sur chacun de leurs dossiers qu'ils publiaient sur l'eau de pluie. Je leur ai dit, faites attention, parce que j'ai déjà vu différents journalistes ou écrivains qui publiaient des revues, des articles, des livres, où il y avait beaucoup, beaucoup de fausses interprétations, voire de mensonges. Et voilà, donc je vais vous apporter mon approche. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, je ne vous demande pas de me faire confiance de but en blanc comme ça. Simplement, je vous demanderai de faire preuve aussi de discernement. Ce discernement, vous pouvez le faire aussi en vous adressant à d'autres sources d'informations. Le gros problème, c'est que ça reste toujours le gros point d'interrogation, où trouver la bonne information, justement, qui n'est pas ni mal interprétée, ni trafiquée, ni orientée. Donc moi j'ai creusé le sujet de fond en comble depuis 2008, depuis la publication de ces textes. Je me suis rendu compte à quel point c'était un énorme problème, que ce soit sur l'eau de pluie, l'eau de distribution publique, l'assainissement collectif, l'assainissement non collectif. Mais c'est un pataquès, mais un foutoir monstrueux en France, je peux vous le dire. Parce que je suis aussi cofondateur et secrétaire d'une fédération nationale indépendante spécialisée sur l'assainissement non collectif. Si vous imaginiez tous les dossiers qu'on doit remonter sur la fédération, mais c'est... hallucinant. Et bien alors, ça part dans tous les sens, mais souvent venant des collectivités elles-mêmes, quoi. Donc, c'est pas de mauvaise foi de leur part, mais il faut simplement comprendre qu'en France, justement, on n'explique rien. Donc, c'est laisser un petit peu en bouloir de chacun. Et donc, je vais vous donner quelques petites pistes aussi là de réaction, de faire attention, mais ne croyez pas non plus tout ce que vous entendez des pouvoirs publics ou des services décentralisés, départementaux, régionaux. Parce que là aussi, justement, malheureusement, on les a laissés un petit peu dans leur détresse et chacun interprète un petit peu à sa sauce ce qu'il veut. Et malheureusement, il y a de fâcheuses habitudes, de mauvaises habitudes aussi qui sont devenues carrément des règles. Des règles qui n'existent pas, mais bon, voilà, par mauvaises habitudes, ça arrive parfois à ce que ce soit des règles déterminées et qui n'ont aucun fondement. Donc faites très attention à tout ça. Et donc tout ce que je vais vous présenter ici dans la première partie, c'est mon approche issue de mon étude, de mon analyse. Mais il y a des choses que je vais vous dire que vous n'aurez jamais probablement entendues ou lues nulle part ailleurs. Mais il ne faut pas s'en étonner, c'est monnaie courante maintenant en France. Donc, pour me présenter simplement, en petite vitesse, donc à la base, j'étais tout simplement un citoyen un peu passionné comme vous. Je me suis installé dans le Gers en 2001, où dans ma grosse rénovation, j'ai intégré donc mon projet de récupération et valorisation de l'eau de pluie, toute ma partie assainissement écologique aussi. Et par la force des choses, je veux dire, comme je suis quelqu'un qui a besoin d'étudier, d'analyser, de comprendre avant de faire et de dire, Mais une fois que j'ai eu fini mes projets, que j'ai complètement étudié avant de faire, et une fois que j'ai eu fini de faire, et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Donc j'ai fondé mon association, mon site internet, mon forum internet, pour partager en fait toutes mes connaissances qui me semblaient quand même assez intéressantes pour le partager au plus grand nombre. Et donc c'est comme ça que j'ai fondé mon association, que je suis devenu au fil des ans un des très gros militants, je vais dire, de la cause Haute-Puits en France. Un peu par la force des choses aussi, après ben, je suis passé professionnel, aussi un peu sous pression de certains collègues. Voilà, donc j'ai développé aussi la partie réglementation qui est quand même quelque chose de très, très complexe et de très important qu'il faut un peu comprendre quand même. Et voilà, donc aussi j'ai co-créé donc, cette nouvelle fédération indépendante sur l'assainissement non collectif. J'en parlerai succinctement demain sur votre conférence sur l'assainissement. Et donc cette fédération, elle s'appelle Confiance. Si vous êtes en assainissement non collectif et que vous avez des problèmes au niveau de vos installations, au niveau du SPANC, beaucoup, au niveau des redevances ou quoi, allez sur notre site réseauconfiance.org. Vous aurez déjà pas mal de bonnes infos aussi à ce sujet-là. Je ne passe jamais mes conférences sans remercier un grand monsieur, un très grand monsieur, c'est mon maître en fait, qui est en Belgique, Joseph Orzag, je suppose que vous avez déjà entendu parler, soit de lui, soit de son site, autarcie.org. Donc ce site, là aussi, vous avez l'adresse. C'est une mine énorme d'informations, scientifiques, mais très abordables, très compréhensibles, et il développe tout le vaste domaine de la gestion écologique de l'eau dans l'habitat. Et ces travaux ont même une portée, je veux dire, si on développait vraiment ces travaux à grande échelle, ça aurait même une portée sur jusqu'à la gestion du climat mondial. Donc pour vous dire quelle proportion ça peut prendre, c'est un sujet qui paraît un peu simple et banal comme ça. Mais ça n'est pas du tout. Donc merci à Joseph parce qu'il a 40 ans de travail de terrain et de labo. Et il a fait un travail énorme et des évolutions énormes dans tout ce milieu. Juste quelques petits chiffres au rappel comme ça, vite fait. Je pense que vous savez aussi que ben, l'eau, on dit souvent, ben, l'eau est de plus en plus rare. Ben non, l'eau n'est pas rare, il y a toujours la même quantité d'eau sur Terre, que ce soit sur Terre ou dans l'atmosphère. Mais l'eau de bonne qualité est de plus en plus rare. Mais la masse volumique, elle est toujours pareille. Mais vous pouvez voir sur ce schéma, l'eau disponible, donc c'est là qu'il est le côté rare, l'eau douce disponible pour l'être humain, ça représente une infime partie. Parce que vous voyez sur ce schéma, l'eau douce sur Terre, ça représente 2,5%. Mais sur cette eau douce, il y a aussi des eaux très profondes, inaccessibles. Et quand on retire aussi justement ces eaux superficielles et les glaces, il nous reste 0,30%. Ça, c'est l'eau disponible pour l'être humain, sur toute la masse volumique de la Terre. Donc c'est là qu'on se rend compte que quand il y a lieu de protéger nos ressources en eau, ça vient aussi de là, évidemment, c'est très important. La consommation, c'est pareil. Toutes les belles campagnes qu'on fait à la télé et tout pour vous dire « fermez le robinet quand vous brossez les dents », vous voyez les chiffres, 70% de la consommation, je parle bien de consommation, parce qu'on parle souvent des centrales nucléaires. Centrales nucléaires, c'est du prélèvement, c'est pas de la consommation. Ils pompent dans la rivière, mais ils rejettent 95% de ce qu'ils ont pompé. C'est juste pour du refroidissement, donc c'est pas de la consommation. Mais en consommation, en bonne saison, je veux dire, l'agriculture représente 70% de cette consommation globale, l'industrie 20% et le domestique que 10%. Donc toutes les belles campagnes et tout, qu'on vous dit, fermez le robinet, vous lavez les dents. Imaginez l'impact que ça représente sur la consommation globale. C'est peanuts, hein, mais alors plus que peanuts, quoi. Bon, sur l'agriculture, on essaye de temps en temps, pour le peu qu'on essaye de mettre des quotas, bam, c'est une révolution, et on va casser les préfectures et tout ce qu'on veut et tout, mais ouais, bon, voilà. On cible tout sur la consommation domestique, quoi. Vous voyez un petit peu l'incohérence et l'hypocrisie du système. Pas oublier non plus les pertes, parce que sur les volumes d'eau de distribution publique, il y a quand même de nombreuses pertes. Et certains services, oui, reconnaissent jusqu'à 40% de pertes de l'eau sur le réseau de distribution, donc de l'eau qui a déjà été pompée, qui a déjà été traitée et tout, donc qui a déjà un coût d'exploitation aussi, mais qui a tout simplement perdu en nature. Au niveau de la qualité, par exemple, bon, agriculture et industrie, ils n'ont pas besoin d'une qualité d'eau particulière. Par contre, au niveau domestique, chez nous, dans nos usages quotidiens, ben, on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'une très bonne qualité d'eau, dite « potable », entre guillemets, sur 6% de nos usages. Parce que sur le reste, même pour la machine à laver, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une eau particulièrement bonne à boire, je veux dire, pour laver le linge. Et c'est là aussi qu'est un peu toute l'incohérence du raisonnement public, je veux dire, et collectif français. Bon là, ces chiffres, ce tableau est issu aussi du CIO. Bon, le CIO, c'est Centre d'information sur l'eau, mais qui est géré en grande partie, qui a été fondé par Veolia, Suez, Sor. Donc c'est des chiffres qui sont un petit peu à nuancer aussi. Oui, parce que voilà, le CIO, ça fait bien, c'est un gros organisme officiel en France, tout d'information sur l'eau, mais c'est quand même créé, géré par Violeur, Suez et Sort. Donc vous voyez un peu le, au niveau de la crédibilité, bon, c'est à prendre un peu la légère. Donc les WC, bah, théoriquement, on reconnaît qu'un WCO, c'est quand même 20-25% de la consommation d'eau d'un ménage, de la consommation globale d'un ménage. Donc bah, là aussi, demain je parlerai de toilettes sèches. Vous virez le WCAO, vous avez déjà une économie de 20 à 25%. D'ici là, à ce que dans les collectivités publiques ou les pouvoirs publics, on vous dise, allez-y, économisez l'eau et passez aux toilettes sèches, hein, bon, vous aurez compris aussi qu'il y a des gros enjeux derrière. Donc l'eau de pluie, c'est pareil. Si maintenant on incitait au niveau public, au niveau des pouvoirs publics, on incitait les gens à passer aux toilettes sèches et d'avoir 20 à 25% de consommation d'eau en moins, vous pensez qu'il y a un certain qui, derrière, ils rigoleraient pas, quoi. Et comme c'est eux qui dirigent beaucoup un peu le bazar, bon... Donc l'eau de pluie c'est pareil. Donc on a tout fait avec des beaux faux semblants et tout avec l'eau de pluie, avec les crédits d'impôt qui est apparu, qui a, ça fait exploser le marché, et puis 4 ans après on n'en parle plus. Mais voilà, autant vous allez consommer en eau de pluie, gratuite, autant en moins vous allez consommer et payer l'eau publique. Donc évidemment ça n'arrange pas tout le monde, donc là aussi il y a toujours un jeu de concurrence aussi qui rentre en compte. Et ce jeu de concurrence évidemment, mais c'est ce qu'on appelle le, dans le milieu, c'est ce qu'on appelle le cartel de l'eau, ou les trois sœurs, hein, c'est Veolia, Suez et Sort. Pas oublier qu'en France, on est très bien fourni. Hein. On a le plus gros lobby mondial de l'énergie, du nucléaire. Un des plus gros lobbies mondiaux aussi de pharmaceutique. Et en même temps, on a aussi le plus gros lobby mondial de l'eau et de l'assainissement. Parce que Suez, Veolia, premier français de l'eau et de l'assainissement. Et premier mondial de l'eau et de l'assainissement. Suez, deuxième français, deuxième mondial. Sort, troisième français, cinquième mondial. Donc vous voyez, pas de problème de ce côté-là, ils se portent bien. Quoi. Et oui, donc, je précise... Il n'y a pas que le côté économique qui gêne, je veux dire, par exemple dans le milieu de l'eau de pluie, il n'y a pas que le côté économique qui gêne au niveau des distributeurs, mais il y a un double problème, et le deuxième problème, ce sont les réticences justement des autorités sanitaires, donc le ministère de la Santé. Et il faut savoir que quand la réglementation eau de pluie était en discussion, était en préparation avant la publication de 2008, le ministère de la Santé a tapé des pieds et des mains sur la table pour essayer d'empêcher que l'on laisse rentrer n'importe quelle eau non potable dans l'habitat privé. Parce que pour eux, ça se fait risser les poils et tout. Non, non, il n'y a que notre eau de distribution publique et chlorée, pas tout. Elle est très bonne, allez-y, les yeux fermés, buvez tant que vous voulez. Ouais, c'est pas si simple que ça non plus sur un plan santé, bien au contraire. Mais donc, ils ont quand même tout fait au départ pour ne pas permettre qu'on laisse entrer de l'eau non potable dans l'habitat. Donc, vous voyez jusqu'où leur, ce que j'appelle leur bactériophobie ambiante aiguë, typiquement française, ça va loin. Et donc tout ça, mais voilà, au niveau des ressources alternatives, ça pose toujours problème. Au niveau bah, énergétique, c'est un peu pareil. Dès qu'on parle d'autonomie, de toute façon en France, au secours. Par contre, à côté de ça, il y a quand même aussi la qualité de l'eau de pluie. Ce dont, justement, c'est peut-être l'aspect le plus décrié en France, le plus dénigré. Parce que vous lisez n'importe quelle publication collective, publique, en France, attention, beurre, caca, boudin, danger, l'eau de pluie, c'est dégueulasse, ça attrape toute la pollution atmosphérique. Ça récupère toutes les saloperies sur votre toiture et tout, et stocké dans des stockages un peu douteux, donc attention, danger quoi. Oui, mais bon, si on veut nuancer un petit peu le discours, et si on veut rester un petit peu dans le bon sens, n'oubliez pas que la pollution atmosphérique, on la respire aussi tous les jours, vous la retrouvez tous sur vos tomates, vos salades aussi. Donc pourquoi c'est pas dangereux sur ce qu'on respire, pourquoi ce serait pas dangereux sur vos tomates et vos salades, mais ça deviendrait dangereux dès qu'on se permet de stocker cette eau quoi. Bon, voilà, c'est un raisonnement aussi un petit peu à décrypter, mais ça n'empêche que dans les faits, je dis bien dans les faits, ce que je me suis donné la peine aussi de confirmer par de multiples analyses, par labo privé spécialisé, où j'ai analysé en fait mon eau de pluie, surtout sur mon eau de pluie brute, donc dans mon stockage, pas mon eau de pluie qui était déjà filtrée, qui était de bonne qualité, ça ne serait pas trop grand chose. Donc j'ai concentré mes analyses en fait sur mon eau brute dans le stockage, directement issue des toitures, avant filtration, et ben voilà le résultat, quelques petits résultats que j'obtenais, bon j'ai quand même poussé un peu plus loin. Quand c'est stocké, on parle de l'acidité de l'eau de pluie. Oui, l'eau naturelle, l'eau de pluie naturelle, quand elle tombe, elle est acide. Mais une fois qu'elle est stockée dans un stockage minéral, donc le stockage béton, qui est le meilleur des stockages, automatiquement, le stockage béton a cette faculté de neutraliser cette acidité naturelle de l'eau de pluie. Donc vous restez sur un pH neutre, voire légèrement basique, ça dépend de la fréquence de la pluviométrie. En minéralité, ben c'est une eau très peu minérale. Ce n'est pas pour autant une eau déminéralisée, comme je l'entends aussi souvent. L'eau de pluie n'est pas une eau déminéralisée, comme l'eau osmosée n'est pas non plus une eau déminéralisée. Ça, c'est encore du fantasme, c'est du pipeau, c'est de l'intox complète. Dans les faits, ça ne se vérifie absolument pas. Au niveau conductivité, bon, qui est lié directement évidemment à la minéralité, on est sur une conductivité très basse, très faible, ce qui est très bon justement dans un sens santé. Au niveau nitrate, ben, toutes les analyses que j'ai faites, je fluctuais en nitrate entre 2 et 7 mg. Ça, je pense que ça ferait rêver beaucoup de collectivités à l'heure actuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taux de nitrate, il est à 50 mg. Et que de plus en plus de collectivités ont très difficile, encore maintenant, à tenir ce taux de 50. Donc maintenant, il y a tous des jeux de dilution ou de pompage sur d'autres sources, où on remélange la source pour essayer de, pas de résoudre le problème, mais essayer de baisser le taux de nitrate pour que ça reste conforme. Sur mon eau publique, mon eau de distribution publique, qui vient de l'usine de distribution qui était à 12 ou 15 km de chez moi, donc qui reçoit la même pluie, dans le même environnement, mon eau de ville du robinet, traitée, j'étais entre 20 et 25 mg de nitrate. Et sur mon eau de pluie brute, avant traitement, avant filtration, j'étais entre 2 et 7. Vous voyez un peu la différence? J'ai testé je ne sais plus combien de métaux lourds. J'en ai testé une quinzaine, je crois, les métaux lourds les plus courants. Mais toujours sur mon eau brute, sur les métaux lourds, j'étais sous les seuils de potabilité, sans traitement. Sur les pesticides et la HAP, je n'ai pas pu développer à ce moment-là, mais sur les pesticides, on a analysé 45 substances à peu près, depuis connues aussi. Sur les 45 substances analysées plusieurs fois, j'en avais 2 qui étaient détectables. Je parle pas d'un niveau de dépassement de normes, qui était détectable sur un labo professionnel spécialisé sur l'eau. Donc vous voyez, quand on vous présente cette image, attention, l'eau de pluie c'est dégueulasse, danger, excusez-moi, mais dans les chiffres, je sais pas où on peut le vérifier, quoi. Bah évidemment, si on va chercher l'eau de pluie sur Paris, sur Lyon, sur Marseille, évidemment vous aurez pas ces résultats-là, c'est clair. C'est pas transposable non plus sur tout le territoire. Mais voilà, sur une zone rurale, je vais dire, un peu préservée, voilà les résultats qu'on peut avoir. Donc on est là sur une qualité physico-chimique. Bon, je ne parle pas de bactériaux, évidemment, parce qu'il y a toujours de la bactériaux sur tout stockage naturel ou artificiel, et sur toute eau brute et naturelle, ça c'est évident. Alors, bactériaux, c'est ce qui est le plus facile à traiter après, de toute façon, parce que ce sont les plus grosses substances indésirables qui soient à éliminer, donc c'est plus facile aussi à éliminer. Mais hormis la bactériaux, sur tous les plans physico-chimiques, sur les plans métaux lourds, sur les plans pesticides, j'étais déjà franchement meilleur sur mon eau brute que sur mon eau de ville traitée. Ça, il faut aussi le comprendre, parce que jamais personne ne vous parlera de ça, parce que justement, au niveau des pouvoirs publics, combien de fois je les ai invités, venez chez moi, venez constater ma conception, venez voir comment j'ai conçu, comment j'ai installé mon installation, avec quel type de matériel, et surtout, venez voir le résultat. Évidemment, j'ai jamais eu une seule réponse. Ça ne les intéresse pas, ils ne peuvent pas reconnaître ça. Ils ne peuvent pas, dans leur discours, ils ne peuvent pas reconnaître qu'un petit con particulier comme moi puisse avoir un meilleur résultat qu'eux sur l'euro public. Donc eux, l'euro public, il n'y a que ça de vrai. Ben non, il n'y a pas que ça de vrai. Là, je peux vous démontrer et vous assurer qu'une bonne eau de pluie bien gérée peut être franchement de bien meilleure qualité que n'importe quelle autre eau publique. Donc, cette eau de pluie au niveau domestique, donc c'est une eau déjà qui est non calcaire, déjà un gros avantage, plus besoin de produire de matériel adoucissant. Donc, non traité chimiquement, ça j'insiste aussi parce que sur tous mes projets d'autonomie, il n'y a aucun traitement chimique, on reste vraiment sur du physique et du naturel. Une physico-chimie est vraiment très proche de l'idéal, même sur l'eau brute. Non chargé en nitrate, non chargé en métaux lourds, non chargé en pesticides. En fait, ça démontre que cette eau de pluie a un excellent potentiel de potabilisation et aussi pour l'eau sanitaire, pour l'eau du bain, de la douche, où on pourra en plus avoir une eau non chlorée aussi, parce que la chloration de l'eau aussi, c'est un sujet hyper tabou en France qu'on ne peut pas remettre en question. Néanmoins, la chloration de l'eau, ça a aussi son impact sérieux et même dramatique, je veux dire, sur la santé humaine. Mais ça aussi, on ne peut pas remettre ça en question parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. C'est soit le chlore, soit l'ozone pour traiter l'eau publique. Et ils n'ont pas d'autres possibilités techniquement parlant. Donc on ne peut pas remettre ça en question. Ça n'empêche que ça a quand même son gros impact. C'est un gros problème. Et c'est même scandaleux, je veux dire, sur un plan de la santé publique. Donc pour récupérer et utiliser votre eau de pluie dans l'habitat, vous devez déjà au départ définir un peu quels sont vos usages voulus et possibles. Quels sont les aspects économiques qui ça va entraîner, des aspects écologiques, mais aussi les aspects qualitatifs, justement, puisque la plupart de mes clients, il n'y a aucune notion dans leur motivation, dans leur projet, il n'y a aucune motivation économique, je veux dire. La motivation première, c'est de se produire soi-même une meilleure qualité d'eau et d'avoir vraiment une très bonne qualité d'eau à disposition, avoir un impact aussi plus écologique, et bien s'il y a un gain après financier, tant mieux, mais ça ne rentre pas en fait dans la motivation première. Chez moi, mon installation, c'est pareil, comme j'ai tout fait en même temps, toute mon installation d'eau de pluie qui était conséquente aussi, et mon installation d'assainissement, je ne sais même pas combien m'a coûté précisément mon installation d'eau de pluie, et je ne sais pas du tout non plus, je n'ai même pas cherché à savoir sur combien d'années je vais amortir le projet, à la limite, je m'en fous, quoi. Ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment le côté qualitatif d'un côté, surtout, et écologique. C'est pour ça que je dis souvent, récupérer, c'est bien, valoriser, c'est mieux. Parce que c'est là que ça va engendrer, justement, d'autres, ce que j'appelle les impacts collatéraux, parce que quand on me rétorque, oui, mais vu le coût d'une installation d'eau de pluie, la pose des cuves, l'achat de matériel, toute la mise en œuvre et tout, c'est quand même un certain budget, et au vu du prix du mètre cube d'eau, ce sera jamais rentable, ce sera jamais amortissable. Sauf que je veux bien ce discours, je veux bien cette argumentation, dans le sens où on reste sur, malheureusement, ce qui a été peut-être 9 dixièmes des installations en France, sur un concept basique. Donc une conception basique, c'est-à-dire qu'on va avoir toute une installation qui va fonctionner que pour le jardin et les WC, éventuellement peut-être le lave-linge. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des usages qui ne nécessitent pas de qualité, donc où il n'y aura pas ce côté valorisation qualitative. Et justement, à partir du moment où on rentre sur les usages sanitaires, eau chaude, eau froide, et encore mieux, sanitaire plus alimentaire, là, il y a tout un autre tas d'impacts collatéraux qui entrent en jeu et qui doivent entrer dans ce calcul d'amortissement. Ce que beaucoup de gens oublient. Vous avez déjà une eau naturellement douce, donc plus besoin de produits ou de matériel adoucissant. Une eau très douce, vous avez peut-être 20% de consommation en moins de produits lessiviels, savonneux, de ménage ou quoi que ce soit. Donc automatiquement 20% en moins qui sont rejetés dans l'environnement et qui ne seront pas traités. Vous avez une longévité beaucoup plus accrue au niveau de tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est résistance chauffante, tout ce qui est appareil électroménager, tout ça rentre en compte aussi. Enfin, il y a tout un tas d'impacts comme ça, collatéraux, qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où on rentre sur les usages sanitaires au jour d'eau froide. Et l'impact santé a aussi son intérêt, je vais dire, sauf que là, pour le chiffrer financièrement, c'est beaucoup plus délicat. Donc pour concevoir son projet, ben, définissez déjà vos motivations premières. N'hésitez pas justement à aller pêcher, mais comme ici, merci d'être là justement, d'aller pêcher des idées, des exemples un peu partout où vous le pouvez. Je vous dirais, ne négligez pas la partie étude, conception. Parce que pour tout, dès lors qu'un projet est bien conçu dès le départ, après toute la mise en œuvre, toute la suite, ça roule quoi, ça roule tout seul. Mais la conception, c'est vraiment primordial. Parce qu'il y a beaucoup de choses, justement, beaucoup d'aspects. Et si vous n'avez pas toutes les connaissances ou les informations ou l'étude nécessaire, il y a des choses que vous allez oublier. Ou il y a des choses que vous avez oublié de préparer en amont. Mince, si j'avais su, et oui, mais trop tard. Donc, la partie étude et conception, faites attention, je prêche pas pour ma chapelle, c'est pas ça, mais je vous le dis, étudiez bien votre projet, prenez tout en compte dès le départ, avant de commencer vos travaux. Et donc il y a les possibilités aussi, parce que tout le monde n'a pas la possibilité non plus d'avoir une récupération, encore moins d'être en autonomie. On m'a déjà appelé par exemple sur une propriété, voilà, il y avait du terrain, il y avait de la place, il y avait la possibilité d'en implanter les cuves, il y avait assez de toiture pour recueillir, pour être en autonomie. Et j'ai dit oui, mais l'appel, le camion, il passe par où? Ah mince, on n'a pas pensé à ça. Ah oui, si les engins de chantier ne peuvent pas accéder, ben, le chantier est mort. Et d'autres personnes ils m'ont dit, ah oui, mais nous on a une petite maison, mais sur 3 niveaux, donc elle est petite en surface, on n'a que 80 mètres carrés de toiture. Oui, mais là où vous êtes et tout, avec 80 mètres carrés de toiture, vous ne pourrez jamais être autonome. Vous allez pouvoir récupérer une petite partie, mais vous ne pourrez jamais être autonome avec ça, ce ne sera pas suffisant. D'autres, voilà, ils n'ont pas le terrain suffisant, ou alors il y a le terrain juste pour poser les cuves. Mais sauf que poser les cuves, on est trop près des fondations, ou trop près des arbres, où il n'y a pas la place pour mettre le terre après quand on creuse le trou. Donc voilà, tout le monde n'a pas la possibilité non plus, ou au niveau de la pluviométrie, d'être en autonomie, mais si ça le peut, ça s'étudie. Et aussi avoir une conception qui soit adaptée. Adaptée à vos motivations, adaptée à vos desiderata, adaptée au terrain, ou à la maison, ou à la configuration des lieux. Mais justement, combien de fois j'ai vu des installations où j'étais en réparé, des installations en fait qui sont pas cohérentes ou pas adaptées techniquement quoi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'études préalables. Ce sont des, vous voyez, comme je vous ai dit, quand le crédit d'impôt est apparu là en 2007, on a d'abord vu le texte sur le crédit d'impôt et puis le texte principal en 2008, tout un tas d'entreprises dites spécialisées comme ça qui ont fleuri comme des champignons un peu partout. Ah oui, mais beaucoup d'entreprises, voilà, ils ont profité simplement du marché du crédit d'impôt, mais sans aucune compétence et sans aucune étude préalable. J'ai vu des projets, mais vraiment à la con, quoi. Et là, les gens ont carrément tapé de l'argent par la fenêtre. Et moi, ça, en tant que professionnel, j'accepte pas, quoi. C'est pour ça, ça mérite le poil, quoi. Enfin, quoi qu'il reste. Mais j'accepte pas, quoi. Si on se dit vraiment professionnel, mais il faut quand même aussi respecter son client. Et c'est pour ça que moi, dans mes projets, par exemple, je ne décide rien avec mes clients. Je suis simplement là en accompagnement, mais je ne veux pas décider à la place de mes clients non plus, parce que j'ai pour principe aussi, c'est votre projet, c'est pas le mien, et c'est votre budget, c'est pas le mien. Donc moi, en tant que professionnel, je ne suis qu'un intermédiaire. Donc ça, il faut aussi pouvoir respecter ça. Malheureusement, ce n'est pas mon écourant non plus, quoi. Donc justement, pour réaliser votre projet après, vous êtes éventuellement en délégation totale, donc vous faites confiance totalement à une entreprise qui va vous prendre tout de A à Z en charge, ou vous gardez une certaine maîtrise d'œuvre vous-même, ou vous partez vous-même en autoconstruction totale après vous être informé, renseigné, sur un peu tous les plans. Vous pouvez partir donc, en autoconstruction totale, c'est ce que j'avais fait chez moi, ou éventuellement partir en autoconstruction assistée. Ça se développe de plus en plus aussi, y compris la construction écologique, puisqu'il y a un réseau maintenant qui s'est constitué sur cette base-là. Et là, donc l'autoconstruction assistée, c'est votre projet, vous participez à votre projet, mais vous faites assister par différents corps de métier qui viennent vous assister et vous complémenter, je veux dire, dans votre réalisation. Donc il y a plusieurs formes possibles pour réaliser votre projet, mais à côté de ça, évitez quand même quelques petites erreurs. Quand je vois des gens qui se sont fait un projet comme ça sur base d'une cuve 3 mètres cubes, je dis non, c'est trop petit. 3 mètres cubes, vous allez faire quoi avec 3 mètres cubes en été? Et avoir un tel rapport de coût d'investissement et de travaux juste pour bénéficier de 3 mètres cubes de réserve, ça vaut pas le coup, quoi. Partez au moins sur un minimum de 5 ou 8 mètres cubes, mais pas 3, quoi. Ça vaut pas le coup financièrement au niveau du coût des travaux. Évidemment, préférez le stockage en béton plutôt que plastique. Là aussi, mais, comme je vous disais, 9 dixièmes des projets qui ont été réalisés en France, c'est essentiellement jardin WC et de temps en temps lave-linge. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est écologique de mettre de l'eau de pluie dans un WC? Le problème du WC, c'est ce que je parlerai demain, le problème du WC, c'est pas de savoir de quelle qualité est l'eau qui en rentre, mais c'est plutôt ce qui en sort. Donc quelle que soit l'eau, que ce soit de l'eau bouteille, que ce soit de l'eau de pluie, que ce soit de l'eau de réseau, que ce soit de l'eau cristallisée, tout ce que vous voulez, quoi que ce soit que vous mettiez dans votre WC pour évacuer vos excrétats, ça change rien au problème de ce qui va sortir de votre WC. Mais le problème, il est de ce qui sort, pas de ce qui rentre. Donc pour moi, ça n'a excepté évidemment sur le plan quantitatif où tout ce qu'on va utiliser comme eau de pluie dans la toilette, ce sera ça d'économiser, je veux dire, sur toute la filière de pompage et de traitement de l'eau publique, certes, mais au niveau des dégâts que votre WC occasionne derrière, ça ne représente rien. Donc pour moi, ça n'a rien de franchement, de fondamentalement écologique d'utiliser de l'eau de pluie sur un WC. Valoriser justement la meilleure eau pour les meilleurs usages, donc les plus nobles. Donc ça aussi, parfois les gens se hérissent en disant, mais si vous ne pouvez pas être autonome, vous n'avez pas une pluviométrie suffisante ou pas une surface de captage suffisante, et que vous devez fonctionner en usage mixte. Donc une partie d'usage en eau de pluie, une partie des autres usages en eau de ville. Quels usages allez-vous réserver à l'eau de pluie et quels usages vous réserverez-vous à l'eau de ville? Et spontanément, mais vous allez garder l'eau de ville pour la cuisine et l'eau de pluie ben, pour les toilettes, pour la machine à laver, pour le jardin. Non? Dans un bon sens, non? C'est le contraire. Gardez justement l'eau de pluie pour tous les usages sanitaires, comme je disais tout à l'heure, eau chaude, eau froide et pour l'alimentaire. Et gardez l'eau de ville ben oui, pour les toilettes, pour le jardin, et pour le lave-linge. Ah oui, mais on ne va pas continuer à mettre de l'eau potable et tout dans les toilettes. Mais si, puisque votre eau de pluie sera plus que potable. Donc valorisez la meilleure qualité d'eau dans les usages les plus nobles et l'eau de plus piètre qualité, je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas de gens d'Adas qui sont là, mais voilà, laissez l'eau de plus piètre qualité pour les usages les plus simples et qui n'ont pas besoin d'une qualité d'eau. Donc oui, continuez à mettre l'eau de ville potable, désolé, dans les toilettes. Parce que votre eau de pluie, justement, sera plus que potable. Bien plus que potable. Préférez donc justement une bonne qualité de matériel aussi dès le départ, parce qu'on peut jouer avec le premier prix, hein, mais le premier prix, c'est au petit bonheur la chance. J'en connais qui ont fonctionné au premier prix. Et j'ai un ami d'ailleurs, quand j'ai fait mon installation, moi j'en ai fait 3 en même temps en fait pour 2 copains. Et il y en a un des deux, ben, il n'a pas voulu suivre mes recommandations. Je lui dis ok, je respecte, c'est ton choix, j'impose rien. Mais il dit mais ton système de pompage, ça t'a coûté combien? Ben, pompage sur pression, ça m'a coûté 950 euros. Pourquoi mettre ce prix-là et tout? Tu fais comme tu veux. Donc il s'est acheté un petit ensemble suppresseur basique là qu'on trouve dans tous les bricotrucs et bricomachins. Et donc un truc qu'il s'est acheté à bon marché. Parce qu'il voulait pas investir 950 euros. Au final, ben, 6 mois après, il avait déjà une pièce qui pétait sur le moteur, il a dû changer une pièce sur le moteur. Un an et demi après, il a dû changer carrément la pompe parce qu'il y a un problème trop sérieux, il a dû changer carrément la pompe, il a remis une pompe encore plus puissante que la mienne. Et résultat des courses, après deux ans et demi, il a son réservoir qui a explosé, il est repassé là sur le régulateur électronique, il est ben, sur moins de 3 ans, ça lui a coûté plus de 2 fois plus cher que moi. Donc de quelques centaines d'euros, il est passé, je crois, à plus de 2000 euros, je crois. Donc ça lui a coûté plus de 2 fois plus cher que moi, sur moins de 3 ans de temps, avec tous les problèmes que lui a eu. Moi, ça fait 9 ans maintenant que ça tourne, j'ai toujours aucun problème. Donc là aussi, c'est un choix sur le matériel, sur le prix. Évidemment, si on prend du bon matériel, du très bon matériel, sans être pour autant dans le haut de gamme, ça a un coût d'investissement au départ. Mais après, ça coûte plus rien, quoi. Ça aussi, ne croyez pas quand on entend ou qu'on lit et tout. Ouais, mais ça coûte la peau du cul à l'installation et ça coûte la peau du cul aussi à l'entretien. Non, c'est pas vrai. À l'installation, oui, si vous optez pour du bon matériel, mais justement, ce bon matériel, après, il va vous occasionner un coût de revient très bon marché. Très bon marché, ça je peux vous le démontrer par chiffre aussi, il n'y a aucun problème. Et donc voilà, ne vous laissez pas non plus embobiner par un tas de rumeurs et d'intox qui circulent mais vraiment partout et à tout sujet, mais c'est affreux, quoi.
Et par exemple, une cuve là vous disiez entre 5 et 8. Avec la pompe, combien il y a une installation comme ça?
Je ne peux pas vous donner de prix.
Et
Malheureusement, ça c'est une question qu'on me pose souvent, mais à laquelle je ne veux pas répondre parce que je ne peux pas donner de prix. D'un marchand à l'autre, vous allez avoir des écarts de prix énormes, et d'une qualité à l'autre, ou d'une marque à l'autre de stockage ou de pompe ou quoi que ce soit, vous allez avoir des très grosses différences de prix aussi. Tout dépend de quel matériel vous l'achetez, et surtout aussi à qui vous l'achetez. Il ne faut pas se leurrer, ça varie du simple au triple. Hein. Et j'ai déjà vu aussi, mais bon, même dans un bouquin que j'ai encore lu ce matin, une installation à 15 000 euros hors taxes sur stockage de 5 mètres cubes, je ne sais pas où il était cherché ce chiffre, mais hors pompage et hors filtration en plus, mais non, c'est pas possible. C'est un chiffre qui est gonflé de 5 fois, je veux dire, par rapport à la réalité. Mais vous allez voir après, si j'ai le temps, il y a un grand panel de matériel, que d'un matériel à l'autre, les prix sont très différents, mais d'un marchand à l'autre aussi, les prix peuvent être très différents.
Cette émission a été réalisée par Olaf Böhmer et Alexandra Joss pour Onde Courte. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Retrouvez toutes nos émissions sur ondecourte.fr, la web radio du libre.